Vous écoutez
RMC.
L'after avec David Gluzman, avec Elton Mokolo. On parle du mercato tout de suite.
C'est combien ?
30 000.
Oh, c'est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te la marcher.
Alors, le mercato aujourd'hui avec la première info. On en a parlé en fin de semaine dernière avec Walid. Yacine Titraoui quitte donc Charleroi pour le Racing Club de Lens. C'est un milieu de terrain algérien. Il s'engage jusqu'en 2031. Il vient donc remplacer Mamadou Sangaré dans le cœur du jeu. Bon, on en a déjà parlé donc de Titraoui. L'une des infos qui n'est pas encore officielle, mais c'est l'une des rumeurs qui agite les supporters de la Côte d'Ivoire. Hervé Renard devrait faire son retour à la tête des éléphants ivoiriens, 11 ans après avoir conduit donc la Côte d'Ivoire à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Surpris, Elton, par ce choix ?
Oui, je suis quand même surpris et je suis quand même très, très, très interloqué par la tournure que prend le football ivoirien, parce que là, il y a l'élection présidentielle qui arrive et j'ai le sentiment qu'en fait, Hervé Renard, c'est une caution justement pour le président sortant, en te disant que voilà, on ramène celui qui a remporté la CAN en 2015 et que c'est une valeur sûr, mais est-ce que le football ivoirien a besoin d'Hervé Renard en 2026 ? Je n'en suis absolument pas persuadé.
Pourquoi ?
Je n'en suis absolument pas persuadé parce que j'ai le sentiment que voilà, Hervé Renard, il se complète dans ce rôle de pompier de service. Et moi, je pense que le football ivoirien...
Mais tu ne crois pas qu'il n'a pas envie de construire quelque chose avec une équipe jeune, justement ? Là, il a les moyens d'utiliser le travail qui a été fait par MRSP.
Je pense qu'il en est revenu de ça. Très clairement, peut-être que c'est une impression qui est fausse, mais par rapport à ce qu'a montré la Côte d'Ivoire depuis son titre à la maison et avec l'émergence des jeunes, peut-être que tu avais besoin beaucoup plus d'un bâtisseur que d'un homme qui est là pour faire des piges.
100% d'accord. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, surtout cette Côte d'Ivoire avec cette génération, mérite mieux qu'Hervé Renard. Hervé Renard, bon, il va être content parce qu'il avait même failli en fait quitter l'équipe de France féminine, enfin temporairement, pour aller finir la CAN. Donc voilà. Mais moi, je suis déçu pour Emers Faye parce que je trouve qu'il faisait un boulot honorable. Peut-être qu'il aurait peut-être fallu l'encadrer. Mais je continue à penser qu'au même titre que l'Algérie, que le football africain, parfois se voit encore trop petit par rapport à la qualité de l'effectif à disposition, et qu'il y a beaucoup de très bons techniciens qui seraient absolument ravis d'entraîner ces sélections.
Du côté de l'Olympique de Marseille, d'après nos confrères de Marca, Naïef Aguerd serait proche d'arriver au Qatar. Le défenseur central marocain serait sur le point de parvenir à un accord avec Al Sadd, l'opération qui pourrait rapporter d'abord 4 millions d'euros pour le prêt payant et ensuite une option d'achat obligatoire de 11 millions d'euros. Donc un package à 15 pour Naïef Aguerd, qui n'a pas vécu la saison qu'on espérait côté marseillais la saison dernière.
C'est une bonne opération économique pour moi. C'est une bonne opération économique parce qu'on est obligé d'être pragmatique. Quand on regarde le carnet de santé de Naïef Aguerd, la réalité économique de l'Olympique de Marseille, il aurait été illusoire de penser que l'Olympique de Marseille allait récupérer 20 millions d'euros sur Naïef Aguerd. Donc on sait que le club olympien est dans une nécessité de vendre. On arrive sur le mois d'août. T'es pas forcément le marché prioritaire. Dès qu'il y a une opportunité sur un joueur qui va sur ses 30 ans, tu ne dois pas hésiter.
C'est un jeu. De toute façon, c'est un joueur mal acheté et plutôt pas mal vendu. Moi,
à confirmer, ça reste à confirmer.
Oui, mais moi, je dévie pas du tout en fait de ma ligne de conduite concernant Naïef Aguerd. J'aime beaucoup le joueur. D'ailleurs, il a été performant avant ses blessures. Après, je sais pas à quel point il a pas utilisé l'OM en fait pour le fitness park, en fait pour se préparer aux différentes échéances internationales.
Le pire, c'est qu'il a pas réussi à arriver au mondial.
Exactement. Non, mais je trouve que c'est un joueur typiquement. Voilà. C'est typiquement âge. Historique de blessure, indemnité de transfert, salaire qu'un club comme l'Olympique de Marseille ne doit plus faire. Voilà, n'importe quel club français, on se prend pour ce qu'on ne sommes pas économiquement. Il n'est pas pour les clubs français.
Surtout quand tu avais déjà Egan Reilly, que tu avais déjà Balerdi, que tu avais déjà Medina.
T'étais sur Ordoñez, t'étais sur un profil que t'allais juste mettre en valeur. Que tu mettes 35 sur Ordoñez avec un salaire moindre, je le comprends. Complètement, mais que tu mettes plusieurs dizaines de millions ou beaucoup plus qu'une dizaine de millions d'euros, je me souviens plus de l'indemnité exacte sur Naïef Aguerd, avec un énorme salaire, c'est non. Même quand t'as le chiffre d'affaires de l'Olympique de Marseille, c'est non.
Mais il faut resituer le contexte. Le contexte, c'est à l'époque où l'Olympique de Marseille fait un mauvais début de championnat.
Oui, 23 millions.
Il y a une course à l'urgence. On est dans l'affaire Rabiot, Jonathan Rowe. Ordonez n'est pas fait, et donc il y a Deuxerbi qui demande.
Il sort d'une super pige à la Real Société. Aucun problème.
Et donc on se dit à un moment donné il va falloir recruter de manière urgente. Il y a aussi un élément qui est très important, la blessure de Medina qui amplifie ce sentiment d'urgence. Et tu tombes dans le piège, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui est tentant, tu oublies qui tu es.
On oublie vraiment
les clubs français ne doivent pas oublier quel est leur quotidien, leur réalité. Et on a, l'OM a complètement oublié.
C'est un peu moi, quand je vais au magasin, je prends un vêtement et je me dis, ouais, c'est peut-être pas ma gamme.
Tu le mets, tu le ramènes avec l'étiquette,
ouais, c'est pas grave. Je reviens, sauf qu'ils n'avaient pas de ticket de caisse. Voilà.
Toujours en rayon des défenseurs centraux français cette fois-ci. Alors évidemment, à Chelsea, on a quelques-uns. L'un d'entre eux s'appelle Axel Disasi et Crystal Palace accélère sur Disasi. On sait que Maxence Lacroix a fait le chemin entre Palace et Chelsea. Et d'après les informations RMC Sport, Axel Disasi, le Palace se prépare à faire une offre à transmettre à Chelsea pour recruter le défenseur central, l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui est sous contrat jusqu'en 2029 avec les Blues. Bonne ou mauvaise idée Disasi à Palace?
Il va traverser le sud de Londres, il va passer du sud-ouest donc au sud-est. Moi, j'ai jamais été ultra fan du joueur. Par contre, Pierre Sage, défense à 3, pourquoi pas?
Pour moi, c'est une bonne chute pour Disasi, dans la mesure où il est référencé du côté de la première ligue. Il y a l'expérience Chelsea, il y a l'expérience Aston Villa. Donc, le fait de pouvoir se relancer dans un club avec des ambitions un peu plus modestes, quand bien même ils viennent de remporter la Conference League, moi, ça me paraît être intéressant. Et cette fois-ci, il pourra attaquer une vraie saison complète si tout va bien.
Bon, il y a quand même ce déclassement au niveau des, même si c'est un club qui progresse, pas là, c'est pas Villa qui joue avec des champions, c'est pas ça, Chelsea. Oui.
Ouais, mais ça correspond à son niveau.
Bah enfin, oui.
On va sur pas la durée. Voilà, titulaire dans un club top 12 de première ligue, avec un entraîneur qui connaît, moi, si j'étais son agent, je l'encouragerais très fortement.
Et tu restes à Londres.
Ah ouais, tu traverses. Ah oui, enfin, le coin est un peu moins sympa.
C'est ce que je disais, mais tu déménages pas.
Pas coming, comme on dit dans le métier.
Mais t'as même pas besoin de déménager.
Ah, tu sais que
le trafic londonien, c'est pas.
Il faudrait voir les centres d'entraînement. À quel point Koba, mais j'ai plus le nom en tête du centre.
C'est pas si loin que ça de mémoire. C'est pas si loin que ça.
Il faudrait regarder, ouais.
Un autre défenseur central de Chelsea, Benoît Badiachil, est tout proche de quitter les Blues, mais lui, c'est pour rejoindre la Serie A. Alors pour l'instant, il y a deux clubs qui sont sur les rangs et qui se battent donc pour Badiachil. Celui qui a le plus avancé ces derniers jours, c'est Naples, qui est tout proche d'un accord avec Chelsea autour d'un prêt avec option d'achat. On rappelle que Badiachil, c'est seulement 8 rencontres de Première Ligue la saison passée avec les Blues. Il a 25 ans et c'est vrai que depuis qu'il a quitté Monaco, c'est un peu compliqué pour Badiachil, qui a déjà échangé avec entraîneur napolitain Massimiliano Allegri, mais la Juventus n'a pas dit son dernier mot. Vous lui conseillez plutôt Naples ou la Juve?
Naples, bonne porte de sortie, Ligue des Champions où tu vas être exposé. C'est un club qui était champion d'Italie il y a à peine un an. C'est un club top 3 de Serie A. Et moi, je me dis que voilà, ce serait le meilleur moyen de se relancer avec en plus un club autant passionnel, donc beaucoup plus que la Juve qui est engagée dans une opération reconstruction avec l'Europa League. C'est pas forcément la meilleure des idées.
Bah surtout que, enfin, alors, s'il y a bien un poste que Allegri sait encore, parce que moi je pense qu'il est complètement free, que Allegri sait faire progresser, c'est vraiment le poste de défenseur central. Donc en fait, potentiellement dans une défense à 3 à Naples, avec une concurrence moindre, c'est intéressant.
Il y a une heure de route entre les deux centres d'entraînement que ça
passe. Ah ouais,
ça fait un petit coup de.
C'est vrai que Cobham, c'est très très loin en fait.
Ouais, c'est loin.
Vraiment dans la campagne. Désolé, je t'ai interrompu sur Badiachil. T'avais fini, David?
Non. Je pense que par rapport à Allegri, Naples, la concurrence relativement limitée, même si j'aime bien Buongiorno par exemple, c'est bien Naples.
Alors, Valentin Barco, lui, donc c'était hier, c'est fait son transfert de Strasbourg vers Chelsea, contrat de 7 ans, vous avez déjà parlé hier?
On l'a évoqué hier, oui.
Bon. On a dit que ce serait peut-être même mieux en piston.
En piston gauche que
Bisouka. Surtout qu'Anderson vient d'arriver, mais je me rappelle, ils n'ont pas fait 90 millions sur Disasi, Badiachil, Monaco, quasiment.
Hein. Si, exactement.
Les deux cumulés, oui.
Ouais.
Et dans l'autre sens, Chelsea vient de prêter le jeune arrière-droit suédois Genesis Antwi à Strasbourg.
D'accord.
Je le connais pas.
Ouais. Je le connaissais juste de nom, et ce qui m'inquiète un peu plus.
Les samedis 21h lors du multiplex.
Ouais. Genesis comme Phil Collins.
Ouais, ça serait pareil.
Alors j'ai vu le fils de Phil Collins allait signer pro. C'est pas du tout du mytho, je l'ai vu hier.
Alors là.
Le fils de Phil Collins va signer pro, je me souviens plus.
Juste un truc, il doit signer au PSG. Il doit signer au PSG.
Il faut qu'il rentre sur la musique. Contactez-moi sur Twitter, remettez-moi, taguez-moi sur le fils de Phil Collins. Je l'ai vu hier, je me souviens plus où. En Allemagne, je crois.
Toujours à Chelsea, Trevoh Chalobah devrait être transféré des Blues à Côme pour 30 millions d'euros.
Bakoum qui va rentrer sur une compétition européenne, ça va être très important pour
Ligue des Champions,
la Ligue des Champions, pour ne pas le citer. Donc Fabregas qui a ses antennes en première ligue, bah le fait d'avoir un défenseur expérimenté, parce que attention, comme il y avait une réalité qui était particulière, ça prenait peut-être très peu de buts, mais pas avec la défense la plus quali possible.
J'aime bien Ramon, moi.
Exactement, Jacobo Ramon qui était du côté du Real Madrid, ce qui met en valeur l'organisation défensive. Et là, je me dis que Fabregas, pour une réalité de trois compétitions, ce qui va être tout nouveau pour Côme, eh ben, t'as quand même besoin d'avoir d'expérience. Chaloba a été vainqueur de la Coupe du Monde des clubs en étant titulaire, avec une très grande performance contre le PSG. Il a ses références.
Et il était à la Coupe du Monde avec l'Angleterre aussi, Chaloba.
Exactement.
Il était appelé pour remplacer Livramento, c'est ça,
Livramento.
Mais alors, moi, Chaloba, j'aime beaucoup. On va reparler en fait du squad cost ratio UEFA. Il va falloir qu'il trouve des sponsors quand même, hein, comme, parce que pour envoyer 30 millions sur Chaloba après avoir été aussi dispendieux avec un stade qui est quand même ce qu'il est, avec des revenus qui sont quand même limités, je sais pas comment ils vont s'intégrer en fait dans le paysage européen.
Les actionnaires ont beaucoup d'argent. Hein.
Oui, mais tu dois générer des revenus maintenant avec le ratio UEFA. Ouais, tu peux plus te permettre en fait de vivre aux frais de la princesse.
Peut-être une collaboration avec Georges Clooney.
Mais il est français maintenant. Donc, ouais, il est plus là. Chaloba, moi, je sais qu'il y a quelqu'un ici qui fait le jeu du DS régulièrement. Je l'aurais bien vu Arsenal, moi. Alors, pour remplaçant polyvalent à droite, défense centrale.
Par rapport à Saliba aussi, qui va être
exactement. Ouais. Je l'aurais vraiment bien vu Arsenal.
Mathieu Collins a signé à Munich 1860.
C'était pas loin.
Ouais. Exactement. Le fils donc de Phil Collins. Et pour terminer sur les Blues, Jordan Henderson, ça y est, cet officiel a signé un contrat de 2 ans à Chelsea après Danny Welbeck. Cette espèce de ce changement de politique sportive. Non, mais ce changement de politique sportive, vous l'interprétez comment ?
Bah moi, on l'interprète positivement parce que c'était l'un des engagements d'Ekbali au cours de la saison où ils avaient annoncé qu'ils allaient beaucoup plus se positionner sur des joueurs expérimentés. Mais joueurs expérimentés ne veut pas dire des joueurs en déclassement. Jordan Henderson a quand même joué 31 matchs de première ligue. Donc ça veut dire qu'il est encore là niveau compétitif. Même chose pour Danny Welbeck. Donc voilà, sur le quotidien de la première ligue, sur cette capacité à exister le samedi à 16h, ils sont encore présents et ce sera pas de trop pour Xabi Alonso pour pouvoir s'appuyer sur des relais tant sur le terrain qu'hors du terrain pour incarner ce que représente Chelsea, même s'ils n'ont jamais été à Chelsea, mais pour incarner ce que représente le quotidien de la première ligue.
Ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas recruté de joueurs aussi âgés.
Ce qui est amusant, c'est que Henderson et Welbeck, je comprends beaucoup plus en fait le recrutement de Welbeck malgré la véritable armada d'avant-centre. Il y en a même que j'avais oublié de Chelsea. Welbeck, vraiment les deux dernières saisons, c'est très solide. Ça prend énormément l'espace, ça joue sur le dos du défenseur. Je comprends complètement. Henderson, je trouve que c'est un peu poussé, le thème expérience est un peu poussé. Quand tu veux aller chercher Granit Xhaka, là je dis ok. Sunderland, hyper encore très bonne Coupe du Monde, hyper influent, tireur de coups de pied arrêté, tout ce que tu veux. Jordan Henderson, il était quand même pas essentiel à Brentford l'année dernière, et Brentford c'était Yarmolio, Vitaly Lianel et Jensen.
Ouais, donc davantage Jensen.
Dans le vestiaire, ok, d'accord, pourquoi pas. Après, je trouve que c'est un peu poussé la thématique. D'ailleurs, je crois que j'ai lu ça, Henderson et Welbeck ont joué un match il y a 16 ans à Sunderland ensemble.
C'est vrai, ouais.
Il y a 16 ans.
Exactement.
C'est fou. Hein.
Bah, c'était l'époque du Sunderland qui montait. Je crois qu'ils font même une finale, si je dis pas de bêtises. Une finale de coupe anglaise, mais je l'ai pas.
Je m'en souviens plus vraiment, mais je crois que c'était quoi, c'était le Darren Bent, c'était encore Kevin Phillips.
Le Borussia Dortmund qui met 30 millions pour l'espoir grec Konstantinos Karetsas, né et formé à Genk. Il a 18 ans, c'est un gaucher qui a commencé à briller cette saison avec Genk. Voilà pour Karetsas. Et puis ça bouge sur le marché des gardiens avec donc Newcastle qui a engagé Lukas Hornicek, le gardien donc tchèque qui arrive de Braga, 26 millions de livres sterling, on doit être autour de 22-23 millions d'euros. Et Peter Gulacsi s'est engagé avec Villarreal, le gardien hongrois du RB Leipzig.
Alors Newcastle, franchement, je comprends complètement le changement de stratégie avec le départ des gros salaires. Il y a peut-être Joel Linton aussi qui va s'en aller. Et Matlas Yaisel
Yesle. Le L est après le S.
C'est vrai.
On a parlé un peu avant l'émission connaissance munichoise. À mon avis, on va laisser parler. Non, mais j'aime bien cette nouvelle stratégie. Bazoumana Touré, ça me parle, ça m'intéresse. Stur, ça m'intéresse. Bamba, ça peut m'intéresser. Je sais qu'ils ont fait Wenjawen. Moi, je trouve ça très surévalué.
Le gardien de Reims.
Mais ça peut m'intéresser. Mais ce tournant trading Newcastle avec déjà une bonne base avec Louis Saul, avec Sven Botman, alors Voltemade qui va partir, mais Wilson Osula que moi je trouve intéressant. Newcastle, ça m'intéresse vraiment. J'aime ce tournant. Ils ont prolongé Harvey Barnes.
Toi qui l'aimes, parce que entre le projet de 2022 et celui d'aujourd'hui.
C'est finito. Tu sais très bien que le PIF, en fait, si tu veux, ils veulent arrêter d'envoyer la caisse. Ils ont cherché un partenariat pour financer la rénovation du stade. Il faut oublier, en fait, si tu veux, les Anthony Gordon au Camp Nou et tout. Tout ça, c'est finito. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour un projet à la baisse, un peu discount, les recrues que je vois et le choix managérial fait, moi, il m'intéresse.
Bon, on verra ça, on aura le temps d'en reparler également dans l'After Angleterre.
On va se moquer de moi quand ils seront 16e et que voilà.
Moi, je te dis, oui, à cas où ça joue la 17e place.
J'ai recevoir un WhatsApp d'Elton Mokolo, 18h02, un samedi de décembre. Ouais. Alors
les jeunes.
Alors le projet trading.
Alors les jeunes. Et c'est puis, comment dans la brume de Brentford.
Et puis Pochettino a prolongé son contrat avec les États-Unis jusqu'en 2030.